Bonjour chères auditrices et auditeurs, l'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Élise. Elle nous apporte un témoignage un petit peu particulier du syndrome de l'épuisement appelé plus communément burn-out, puisqu'elle a fait un presque burn-out, ou on pourrait peut-être traduire ça par un burn-out avorté, ou en tout cas un burn-out qui n'a pas été à terme. Ce phénomène touche en moyenne plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous organisons ces rencontres. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Élise.
Bonjour.
Alors, je vais déjà te laisser te présenter succinctement.
Eh bien donc, je m'appelle Élise, j'ai bientôt 37 ans. J'ai fait le principal de ma carrière jusqu'à maintenant, plutôt dans le milieu de l'éducation. J'en ai fait aussi dans l'agriculture. Enfin voilà, j'ai un parcours particulier au niveau professionnel, un petit peu chahuté, on va dire.
En tant que quoi, tu as fait ce parcours dans l'éducation?
Alors, j'ai été auxiliaire de vie scolaire, j'ai été enseignante aussi, donc dans le primaire, dans le premier degré. D'abord en tant que remplaçante contractuelle et puis après j'ai eu le concours et j'ai été vraiment enseignante, donc titulaire, fonctionnaire, en région parisienne. Voilà, j'étais dans l'académie de Versailles.
D'accord, et dans l'agriculture, quelle a été cette expérience?
Eh ben, j'étais salariée agricole dans une petite exploitation laitière qui faisait aussi de la transformation en fromage et yaourt bio. Voilà. Entendu. Et ça, oui. C'est ça aussi, c'est fini. Maintenant, je suis retournée dans l'éducation nationale.
Voilà. D'accord. Voilà. Alors, la première question qu'on pose dans tous les interviews, c'est comment tu pourrais décrire le premier jour où tu as vraiment pris conscience, où on t'a fait prendre conscience de ce presque burn-out, ou en tout cas de cette, on va dire, grossesse qui n'a pas été portée à terme.
C'est lorsque j'étais donc en région parisienne, j'étais enseignante, donc professeure des écoles. La première année d'exercice a été compliquée, comme ça l'est en général pour les jeunes enseignants. Ma première année a été compliquée. Ça s'est passé, j'ai enchaîné sur la deuxième, je suis devenue titulaire, parce que la première année on est stagiaire, ensuite je suis devenue titulaire. Bon, c'était des conditions particulières, comme
dans l'éducation nationale.
Comme dans l'éducation nationale, voilà, je voulais pas le dire, mais en tant qu'enseignant, bon, on sait que les premiers temps ça va être dur, donc on y va un peu en connaissance de cause, on sait qu'il va falloir un peu serrer les dents. Et donc la première année, le fait est que j'étais à mi-temps en poste en classe et sinon le reste de la semaine, j'étais en formation à ce qu'on appelle plus les IUFM, à l'ESPE. Moitié formation, moitié classe. Donc je partageais ma classe avec une autre jeune collègue d'ailleurs. Bon, voilà, compliqué donc, fatigant, mais on enchaîne. Ce qu'on a envie, c'est de finir cette année et puis d'enchaîner, de devenir titulaire et de passer à la suite. Qui dit région parisienne, dit on est en début de carrière, donc on devient remplaçant. Moi, j'étais brigade, ce qu'on appelait à l'époque, donc je faisais des remplacements longs. Ma deuxième année, c'était ça, j'ai fait des remplacements à chaque fois, j'ai fait un peu plus d'un trimestre, enfin... En gros, la moitié d'une année dans une classe, le reste de l'année dans une autre. Donc ça m'allait encore assez bien, je pouvais construire des choses, ça restait sympa. En vrai, la fatigue s'accumule, mais on continue parce qu'on sait que c'est que provisoire, on finira un jour par avoir un poste fixe plus intéressant. Bon, donc je continue à enchaîner. La troisième année, je me retrouve à nouveau remplaçante, mais cette fois-ci je fais des remplacements courts. Donc je me retrouve à faire des fois des demi-journées dans une classe. Au maximum, je fais une semaine au même endroit, mais sinon, je fais bouche-trou pour les collègues qui sont absents ou qui sont envoyés en formation. Voilà. Et en fait, c'est là que ça commençait à vraiment se casser la figure. je pense que j'avais serré les dents jusque-là. Je me raccrochais un peu au fait de pouvoir construire des choses quand même avec les classes que j'avais, parce que j'étais suffisamment longtemps avec elles pour pouvoir faire des projets, faire des trucs sympas, m'investir auprès des élèves et tout ça. Et là, je pouvais plus. J'étais juste là pour faire, en gros, de la garderie. Et, enfin, voilà. C'était pas... J'y trouvais plus mon compte, du coup. Cet intérêt-là que j'avais de suivre des élèves pendant un certain temps, au moins, il n'était plus là. Bah, ça a commencé juste à devenir de plus en plus compliqué, rien que d'aller travailler. C'était des crises de larmes... souvent. Alors, beaucoup le matin au moment de partir, dans les transports, parce que Académie de Versailles, forcément, je faisais soit beaucoup de voitures dans les bouchons, soit beaucoup de transports en commun, et donc j'avais le temps
de cogiter,
et de bien réfléchir à la journée qui arrivait et que j'avais pas envie de faire, en fait, parce que je savais que j'étais stressée de pas trop savoir où j'allais débarquer et puis de pas savoir comment ça allait se passer et puis de savoir que le lendemain je serais ailleurs et rebelote. Donc beaucoup de pleurs, des difficultés à dormir, enfin donc ça s'enchaîne parce que forcément plus j'étais fatiguée, plus je pleurais, plus plus c'était dur de faire quoi que ce soit. Et jusqu'à un moment où j'ai dit, c'est plus possible. Je suis allée voir ma médecin, du coup, qui commençait à me suivre un petit peu régulièrement, à dire. Puisque j'avais commencé à aller la voir quand ça commençait à pas aller bien. Je me disais, j'ai peut-être des carences en quelque chose, peut-être j'ai besoin de magnésium, je vais voir. Et donc, c'est d'abord elle qui a été très rassurante, qui m'a dit non mais là il y a quand même votre travail ça vous c'est trop néfaste pour vous, il faudrait que vous fassiez une petite pause. Donc elle a commencé par me mettre en arrêt parce que déjà selon elle j'étais épuisée et il fallait que oui, qu'émotionnellement je me remette un peu et que c'était surtout du repos, voilà. Et on commençait aussi les cachets, les antidépresseurs et tout ça. Bon. C'était la première fois du coup qu'on me faisait prendre des antidépresseurs. Bon. Au début ça aide parce que on se sent un peu moins triste effectivement et on dort un peu mieux donc ça aide. Mais dès qu'il était question que je reprenne, ça recommençait, quoi. Enfin, je commençais à paniquer, je pleurais, enfin, c'était... Voilà, pas super. Assez rapidement, du coup, ma médecin que je retournais voir, et puis qui me prolongeait mes arrêts, ou qui me remettait en arrêt, puisque je pouvais vraiment plus, enfin... Je pouvais pas, quoi. À part pleurer, j'arrivais pas à faire grand-chose. Et elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Pour pouvoir parler, essayer de dénouer ce qui vraiment me posait problème, essayer de mettre des mots sur ce que j'avais, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai suivi son conseil, je suis allée voir une psychologue, donc avec qui j'ai commencé à faire quelques séances, et c'est elle en fait qui m'a dit mais je pense que ce que vous vivez là, c'est les conséquences notamment de votre première année d'exercice qui a dû vous épuiser et je pense que vous avez frôlé le burn-out. C'est elle qui m'a dit ça. Et puis du coup, elle me réexplique, elle me dit parce que ce que vous me dites là, c'est que votre première année d'exercice, vous dormiez 4 à 5 heures par nuit, le reste du temps, vous le passiez soit en transport, soit à travailler, et c'est vrai, parce qu'en général, je me couchais à minuit, 1 heure. Quand j'avais fini de travailler, et je me levais à 5h30, 6h, donc bon. Et j'avais beaucoup de stress, parce que beaucoup d'inconnus, la première année d'exercice est quand même lourde, quand on est prof des écoles, parce qu'on... Enfin, en plus, ça a changé depuis, mais à l'époque, on avait un maître formateur qui venait nous voir, et moi, ça se passait pas bien du tout, en plus, avec ma maître formateur, enfin... c'était compliqué. Et donc elle m'a fait un peu le bilan comme ça. Elle me dit regardez un peu tout ce que vous avez vécu. Vous avez dû vous épuiser à la tâche, vous avez renchaîné par la suite sans jamais vraiment vous reposer, pouvoir décrocher concrètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous en êtes là. Alors il y a d'autres choses aussi. Il y avait un Je pense qu'il y avait chez moi un terreau très fertile pour ce genre de mésaventures, de comportements.
C'est-à-dire
Ben,
perfectionniste,
perfectionniste, à tout vouloir
contrôlé,
contrôler, à
oui.
vouloir
Oui, le
toujours
terreau.
que... Ouais, voilà.
Donc c'était frôler la catastrophe, donc en quelque sorte ça s'est résolu d'une manière, bon, on verra peut-être après,
Oui.
mais déjà savoir comment a réagi l'entourage privé quand vous avez dit, ben là j'ai frôlé le burn-out, j'étais à deux doigts d'être vraiment très mal.
Ben, je sais pas si je l'ai verbalisé comme ça auprès de mon entourage vraiment parce que je savais que mon entourage faisait du souci pour moi déjà depuis un moment parce qu'il voyait bien dans quel état j'étais. Donc, enfin, globalement, mes parents s'inquiétaient pour moi parce que non seulement j'étais loin géographiquement d'eux parce que c'était la première fois parce que j'étais toujours restée dans le nord-est, donc ma région d'origine. Là, j'étais loin et ben oui, ils voyaient que ça allait pas, mais qu'en même temps, moi, mon discours, c'était, ben, de toute façon, c'est comme ça, c'est dur, on est tous dans la même galère, les jeunes profs, c'est dur pour tout le monde. Donc, je pense qu'ils ont été rassurés quand j'ai commencé à aller voir la médecin, aller voir la psy quand même. Bon, après, la psy, entre parenthèses, parce que j'ai pas une famille vraiment pro-psy. C'est même tout le contraire. Enfin, les psychologues, pour eux, c'est un truc pour les fous ou pour mais c'est pas un truc. C'est pas quelqu'un qu'on va voir.
C'est pas un outil courant.
Non, du tout. Donc, je me suis pas trop étendue non plus sur la psy après.
Et comment alors ça s'est passé avec l'entourage professionnel ?
Alors l'entourage professionnel.
Parce qu'après ces arrêts, il y a bien eu une reprise.
Oui, bah il y a eu une reprise. En fait, c'est compliqué. L'entourage professionnel, après, dans l'éducation, on a les collègues enseignants qui compatissent, qui sont souvent passés par là aussi, qui ont vu des vertes et des pas mûres, surtout en début de carrière, qui disent qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut s'écouter, que voilà, si ça va pas, il faut écouter son médecin, il faut faire ce qu'il faut pour aller mieux. Mais au niveau hiérarchique, on va dire, déjà, quand on est enseignant, la hiérarchie est assez loin. On n'a pas vraiment de personnes, des ressources humaines vers qui on peut se tourner. Enfin, on est un peu tout seul. Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, j'étais un peu toute seule. Il y a une conseillère pédagogique quand même qui était sympa, qui compatissait un peu à ce qui m'arrivait, mais il y a toujours cette idée de bah ouais, mais c'est comme ça pour tout le monde est passé par là, et voilà. Donc, pas énormément de réactions de la part de l'environnement travail, quoi. Et la cerise sur le gâteau, ça a été justement quand je réfléchissais, je me disais bon. Un de mes problèmes, c'est d'être remplaçante, de ne pas avoir de poste fixe. Ok, je vais voir si c'est possible justement de discuter avec le rectorat et l'inspection, voir si un autre poste ce serait envisageable pour moi, ou si voilà, négocier quelque chose, peu importe quoi, mais voilà, je cherchais de l'aide. Et j'ai eu la bonne idée de prendre rendez-vous avec la médecin du travail de Nanterre, de l'académie, justement. Donc, basée à Nanterre, dans le 92. Et, ça s'est pas bien... C'est pas un rendez-vous qui s'est bien passé. En fait, j'y suis allée en disant, voilà, que j'étais... Enfin, j'y suis vraiment allée en disant que j'avais un problème avec mon poste, que je vivais très mal le fait d'être remplaçante, que ajouté au cadre de vie qui est quand même... Enfin, quand tu viens de l'extérieur, en région parisienne, tu te prends quand même le mode de vie très particulier de cet endroit-là, où on est dans cette espèce d'amas urbain qui n'a pas de fin, et avec toujours beaucoup de monde, beaucoup de bruit partout, des problèmes de transport, enfin, aller d'un point A à un point B prend toujours beaucoup de temps, enfin, c'est une vie particulière. Surtout quand on n'est pas né là-dedans. Et donc, moi, j'essaie d'exprimer ça, le fait qu'il y a quand même beaucoup de contraintes dans la vie, dans l'académie. Et en plus, le fait de me retrouver jeune prof à faire des remplacements, ça me parle pas et ça me va pas et ça me fait du mal. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire, quoi ? Je me suis juste pris un mur où on m'a dit que tout le monde passait par là. C'était le mode de vie de tout le monde dans la région, et que si j'étais pas contente, j'allais quand même m'en aller. Donc voilà. Donc, bon, je suis ressortie en pleurant, toujours, hein, ça c'était une constante. Mais du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, d'accord, si vous me retenez pas plus que ça, puis que effectivement il n'y a pas de solution, je m'en vais. Mais je pense que j'ai déposé ma démission. je sais pas, quelques semaines plus tard, quoi, j'ai fait ma lettre, j'ai dit, ben, je m'en vais, j'ai été franche, enfin, j'ai expliqué dans ma lettre assez longue, hein, que je sais pas si quelqu'un l'a lu, en vrai, mais voilà, ça m'a fait du bien de poser sur le papier que j'avais pas été bien traitée et que je trouvais ça nul, et donc que je m'en allais. Quand je suis allée déposer ma lettre, j'ai eu la fameuse conseillère pédagogique que j'ai recroisée qui m'a demandé vous venez pourquoi? J'ai dit, je viens donner ma démission, ça c'est ma lettre. Ah oui, ah bah non, mais faites pas ça, mais c'est dommage. Et j'ai dit, si. Dire ça fait des mois que j'appelle, enfin, que je dis que ça va pas, que j'ai eu différents interlocuteurs, tout ce qu'on me répond c'est que c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc c'est trop tard, là, c'est plus le moment de me dire, non, partez pas, non, c'est acté, là, je me préserve, je veux pas continuer ça plus longtemps, en fait.
Et ça a été un soulagement.
Oui, ouais, ah oui, j'étais soulagée de me dire c'est bon, bon, autant je savais pas trop où j'allais et ce que j'allais faire, mais au moins j'étais plus là, j'étais plus obligée de faire ce boulot qui n'avait plus aucun sens pour moi, donc oui, soulagée quand même.
Et c'est là que tu as trouvé un boulot de ouvrière agricole ?
Pas tout de suite. En fait, comme j'étais j'ai fait un travail sur moi-même, tout ça. Il s'est avéré que... alors, c'était forcément un tout. Il n'y avait pas que... Il n'y avait pas que le travail qui me posait problème. C'était aussi le milieu, le cadre de vie. Puisque, ayant toujours habité le Nord-Est, moi, la plus grosse ville que j'avais connue, c'était Nancy. Et j'y étais que la semaine, parce que le week-end, en tant qu'étudiante, je rentrais chez mes parents. Enfin, voilà. Donc j'avais quand même un cadre plutôt verdoyant d'ordinaire et en fait j'ai pas supporté la ville. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée avec l'aide de la psy, c'est que il fallait que je voie au moins que j'ai un horizon à peu près dégagé que je puisse regarder au moins une fois par jour avec des arbres, avec des trucs qui poussent, avec des oiseaux et que la ville c'était pas pour moi. Donc il fallait pour mon bien-être que je reparte vers du vert, quoi. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai réfléchi. Et qu'est-ce qui me faisait envie à ce moment-là? J'avais envie de gratouiller la terre, forcément, parce que on y revient souvent. Et même aujourd'hui, quand je me sens pas bien, d'ailleurs, un truc qui me soulage, c'est d'aller gratouiller dehors, planter des trucs. Et je me suis dit. Il y a des projets qui existent, il y a des gens qui montent des micro-fermes. J'ai découvert la permaculture et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça a l'air chouette. Moi, j'ai toujours eu une conscience écologique assez forte. C'est, du coup, je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, dans mon cœur, dans ma vie, est important. Donc, je vais me recentrer là-dessus. Je me suis dit, pourquoi pas moi, je vais essayer de monter une micro-ferme. Et au même moment, donc j'ai eu la chance que mes parents cherchent à acheter une ancienne ferme en Haute-Saône, au même moment. Et du coup, je leur ai dit, si vous avez de la place pour moi, est-ce que je peux vous piquer un bout de jardin et tester mes trucs, quoi, et je vais essayer ça. Et donc voilà, je suis rentrée chez papa-maman et j'ai essayé, je me suis mise à gratouiller la terre et à essayer de lancer une micro-ferme en permaculture. Bon, 50 000 péripéties plus tard, ça n'a pas pris, mais ça m'a fait du bien.
J'allais dire, ça a fait la thérapie.
Mais ça m'a fait du bien et parce qu'il faut quand même pouvoir... manger et payer les factures. J'ai fini.
Dans ce genre d'aventure, c'est difficile quand même.
Alors, j'avais mon conjoint avec moi, qui m'a suivi tout le long et qui a fait preuve de beaucoup de patience, mais qui pour le coup, dans la région, trouvait pas de boulot. principalement parce que comme on avait toujours habité en ville, il n'avait jamais eu besoin de passer son permis, et donc il n'avait pas son permis. Donc sans permis, en Haute-Saône, c'est pas trop possible. Donc, en fait, c'est parce que mon exploitation n'a pas fonctionné et parce que on pensait pas qu'il y mettrait, enfin, on n'espérait pas qu'il mettrait autant de temps à trouver du boulot, que je dis, bah écoute, j'ai eu une proposition là, et vraiment tout bêtement, un jour, je suis allée acheter le fromage dans la ferme justement qui était pas très loin de chez nous, où on m'a dit, ah mais vous cherchez du travail, mais nous on cherche à embaucher, ça vous dit de travailler à mi-temps? Ok, donc je crois 3 jours plus tard, je commençais à la ferme. Ça s'est vraiment fait comme ça, sur un hasard. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, bah allez, oui, je vais reprendre une activité salariée. En plus, à temps partiel, ça m'allait bien parce que je reprenais doucement le fait d'être employée. Et puis c'était une ferme bio. Voilà, moi, l'agriculture, ça... Ça, c'était un milieu que je connaissais pas trop, et du coup c'était la perspective d'apprendre des nouveaux trucs, d'apprendre à faire du fromage, enfin, j'étais contente quoi. Donc ça s'est fait comme ça, voilà comment je suis arrivée à être salariée agricole.
Et ça a été une thérapie, en gros.
Ça a été une thérapie, ça a été alors aussi un cheminement intérieur dans tous les sens, parce que ça m'a fait, pour le coup, changer de regard sur l'agriculture. Ça m'a fait découvrir un peu ce qu'était l'envers de la PAC. Ça m'a fait découvrir certaines choses pas forcément très sympathiques de ce milieu-là. Et pour le coup... alors, dès le départ, je m'étais dit, bon, c'est provisoire, je fais ça, c'est alimentaire, et en même temps, c'est cool parce que j'apprends des choses, mais je ferai pas toujours ça. Je sais pas ce que je ferai après, mais je ferai pas toujours ça. Et le Covid est arrivé, et je suis passée à temps plein. Du coup, parce qu'on a eu le bazar du Covid, j'ai ma collègue qui elle, était à temps plein, a été obligée de partir, parce que problème de garde d'enfants, parce que les écoles voulaient plus des gosses, des fois, enfin, voilà... Donc bref, je dépanne, on me demande est-ce que tu peux passer à temps plein, parce que là c'est on trouvera personne à embaucher, et puis c'est compliqué, donc je passe à temps plein, normalement provisoirement. Et puis en fait je suis passée à temps plein, voilà, complètement, définitivement. Et mais je cherchais quand même toujours, enfin j'avais toujours en tête, de toute façon je suis pas là pour toujours, je vais faire autre chose, je sais pas encore quoi, mais je vais faire autre chose.
Thank you.
ma volonté, c'était pas... J'avais quand même, j'ai quand même toujours cette espèce de foi dans le service public. Et je me disais que même si je voulais pas redevenir enseignante, je me voyais bien réintégrer le service public. Je savais pas trop de quelle façon. Et je me suis dit, bon, non, l'enseignement, j'y retournerai pas parce que j'aime pas ce que c'est devenu et... Je sais que le système s'était pas arrangé depuis que j'avais quitté. Donc, bon, je vais faire autre chose. Et j'ai fini par passer un concours dans l'administration, en fait, de secrétaire administrative, voilà, très bêtement, que j'ai eu du premier coup. Je ne m'y attendais pas trop, mais je l'ai eu. Et donc, me revoilà dans la fonction publique et en plus dans l'éducation nationale. Parce que le hasard a fait que l'année où j'ai passé le concours, c'est le seul ministère qui l'organisait. Donc, voilà, on savait que les postes allaient arriver, allaient forcément être dans l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur. Mais bon, j'ai dit, mais c'est pas grave, je le tente, de toute façon, je le fais pour voir et tout. Et puis voilà. Et au final, je l'ai eu. Donc me revoilà dans l'éducnat. Bon, je suis plus du même côté, tout à fait de la barrière dans l'administration. Après, je découvre aussi que ça n'a pas trop changé en termes de gestion des ressources humaines. J'aime pas cette expression, mais c'est toujours à peu près pareil. On va dire, on est assez lâché à ce niveau-là dans la nature. Et voilà, on se débrouille et on se serre les coudes entre collègues, encore une fois, beaucoup. Mais bon, en fait, c'est le fonctionnement de la maison, quoi.
pourrait peut-être, après ça, on reprendra
ouais.
à ce point. Mais on pourrait juste voir dans les symptômes qui existent, desquels tu as réellement souffert.
Ouais.
Alors, quand on parle, par exemple, du changement de comportement, on parle du repli sur soi, isolement, incompris par l'entourage. Tu peux me dire oui, non,
bah,
juste ça
oui,
suffit.
Oui, oui, si.
Repli sur soi.
Oui, repli sur soi, forcément, parce que, ouais.
Oui.
On se trouve nul. Ouais.
Après, on parle d'attitude impersonnelle, détachée, négative, voire cynique. Est-ce que tu as vécu ça?
Je crois pas. Je crois pas que je sois arrivée au cynisme.
Voilà. Ok. Non. Comportement agressif non plus. Style passe-moi le sel, passe-moi le poivre. Deux secondes après, si c'est pas fait, tu me cries à la figure.
Non.
Comportement addictif, alors ça peut être les médicaments, ça peut être les films YouTube, la bouffe, le sexe, enfin plein de trucs.
Ouais, hein, l'alcool, peu importe.
Un comportement qui t'enlevait le poids. T'es pas arrivé jusque-là.
La télé, je sais que les arrêts, mes arrêts maladie successifs, c'était. Je pleurais. Sur mon canapé, devant la télé.
Voilà. Mais t'as quand même laissé tomber vite fait, la télé.
Oui. Donc c'était vraiment... C'était pas tellement de l'addiction. Ouais. Je sais pas, je saurais pas le définir.
Non, parce que tu l'aurais gardé encore maintenant.
Ouais.
Quand on dit changement dans la motivation, baisse... Alors là, je pense que... Oui. Baisse de la motivation professionnelle.
Ah bah oui, pour le coup, là.
Pour le coup, là, oui. Vu que tu nous as raconté que t'as donné ta lettre, oui, c'est ça.
Ça, c'est sûr.
Des doutes sur tes propres compétences.
Ah oui. Oui, non, mais ça... Bon, après... C'est une caractéristique de base chez moi. Donc
d'accord, okay.
Ça n'a pas été arrangé par le.
Et
par
puis
ça.
Une perte de satisfaction personnelle dans ce qu'on accomplit, ben oui, les remplacements, t'as plus du tout de satisfaction.
Complètement. Et puis même, même des choses que je pouvais aimer faire dans la vie, il n'y avait plus rien qui m'apportait de la joie, en fait, quasiment. C'était. Ouais.
Alors, je ne sais pas si tu as été jusqu'aux troubles cognitifs qui sont les troubles de la mémoire. Est-ce que tu as eu des problèmes de mémoire à ce moment-là?
Ça, je me souviens pas. Non. Je crois pas, mais après, j'ai des problèmes de mémoire aussi, de base, liés à mon parcours. Et,
d'accord. Ouais. Mais il n'y a pas eu le style, non, je dois faire des listes, je me souviens plus que je dois me lever là, je me souviens plus que je dois aller là. Non, t'as pas été jusque-là.
Non.
Ouais. Trouble de l'attention, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire de plus de 9 secondes, parce qu'à la 10e seconde, on zappe comme à la télé, quoi.
Non, en même temps, je faisais pas grand chose.
Non,
en fait.
Bon, non. D'accord.
Mais donc, je pense pas.
Difficulté à se concentrer. On doit écrire une lettre, c'est comme si on allait monter l'Himalaya.
Ça, oui.
Mais en fait, t'as quand même rédigé une belle lettre de démission.
Oui,
quand même.
Après, j'ai eu l'aide de mon conjoint.
D'accord.
Voilà, mais. Ouais. Ça m'arrivait. Ça, c'est sûr qu'il y a des périodes où j'étais
difficile.
Vraiment au fond du trou.
Mais on ne peut pas dire que c'est des symptômes. Souvent, le burn-out, l'épuisement vraiment, quand on est dedans, on garde ses symptômes pendant 1 an, 2 ans, voire 10 ans. Hein.
Non, ça m'a
ça
pas
ça aurait pu être épisodique.
Si longtemps,
mais,
voilà. Juste épisodique.
Puis incapacité à mener à bien des missions qui nous sont confiées, style on doit faire le repas du soir parce qu'il y a 2 amis qui arrivent, mais on a l'impression qu'on va aussi monter l'Himalaya et redescendre dans la journée, quoi.
Non, ça, les tâches simples pouvaient être facteurs de stress, gros stress, mais j'arrivais à faire quand même.
Dans les troubles physiques, des crises de larmes, ça, c'est bon ?
Oui, ça va.
Ça, tu
l'as. Ça.
Ça, tu peux le cocher, voilà. Manifestation somatique de plainte ou de douleur. Alors souvent, on va voir le médecin et il dit, mais je ne sais pas ce que vous avez. Alors, douleur abdominale, douleur musculaire, aux articulations, douleur dorsale, ou bien alors style ulcère, troubles gastro-intestinaux, troubles alimentaires, enfin des trucs. Et on va voir le médecin, le pauvre médecin, il cherche tout, il fait toutes les analyses, puis il dit, je ne sais pas.
Non, j'ai des problèmes de dos aujourd'hui, alors... On me dit que, de toute façon, ça n'a pas dû être arrangé par le fait que je suis quelqu'un de très stressé et que ça a été une grosse période de stress à ce moment-là. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai des hernies discales. Bon.
Et parce que le cortisol et l'adrénaline rongent les articulations.
Voilà, donc aujourd'hui, j'ai des problèmes de dos. Après, c'est un ensemble de facteurs, sûrement. Mais...
Après, on parle de réduction des défenses immunitaires. Il passe, un moindre rhume, il est pour nous.
Oh bah ça, sur toute cette période, oui. De toute façon, j'étais beaucoup malade.
Donc l'épuisement était déjà bien encadré, bien mis, mais pas vraiment trop profond.
Non.
Ça a été vraiment un début de gestation qui a avorté, quoi, en quelque sorte.
Mais
qui a avorté probablement par la démission.
Hein. Ah oui,
je pense que ça a été la thérapie de choc, à mon avis. Après, on parle de troubles psychiques, c'est-à-dire une anxiété intense, agitation anxieuse. Oui, je pense que ça devait être turbiné et tsunami.
Oui.
Hein.
Oui, moi, c'était vraiment ça. C'était sans cesse.
Avec des problèmes de sommeil.
Oui, beaucoup.
Oui, voilà, beaucoup. Après, on parle de flux de parole, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle tellement qu'on n'écoute plus ce qu'on nous dit, parce qu'il y a un tel tsunami dans notre tête qu'on parle...
Ça m'arrivait, ouais.
Quelque chose de phénoménal, quoi.
Des fois, j'avais besoin d'appeler ma mère et je lui racontais... Et je repensais après aux conversations, je me disais, mais pourquoi je suis partie dans des trucs comme ça? Et je me rendais compte que j'avais tenu la jambe pendant plus d'une heure à parler toute seule. Et j'en prenais conscience après.
Ça, c'est la fatigue, ça fait ce genre de phénomène. Ouais. On appelle ça la logorrhée.
Oui.
C'est le gros mot qui... Voilà. L'association d'être submergé par le travail et ou la vie. C'est-à-dire piégé, quoi, en quelque sorte.
Ah oui, bah ça, complètement.
Oui, mais là, je trouve que... Alors, à mon sens, la démission, ça a été, le coup de grâce. Ça a été vraiment l'avortement, quoi. Voilà, il est là, c'est bon, j'en veux pas. Je veux pas le garder en moi, c'est bon. Je coupe totalement et je redémarre autre chose. Et ça, je pense que... Oui, ça peut être bénéfique quand on sent déjà les troubles et qu'on ne cherche pas à persévérer dans quelque chose qui n'a pas de sens.
Ben, c'est ça, en fait.
Bon, irritabilité, des fois on est un petit peu... Et chute de l'estime de soi.
Pas démonstrative. Oh oui, oh ben, ça oui.
Bon, d'accord, bon, ok. Et un état dépressif, parce que le burn-out n'est pas une dépression, mais ça donne ce qu'on appelle un état dépressif, ce qui fait qu'il y a beaucoup de médecins qui donnent des antidépresseurs. Voilà. Mais c'est à contrario de ce... Enfin bref, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien.
Oui.
Parce que oui, sur le moment peut-être que, mais comme ce n'est pas une dépression. La différence avec une dépression, c'est qu'une dépression, on a toujours plus ou moins eu un caractère mélancolique dépressif, d'accord ? Et puis, on fait des dépressions, ok. Mais l'état dépressif, c'est plutôt quelqu'un qui d'habitude est punché, a envie de faire les choses, s'investit, vas-y, machin, lala, patafouin. Et puis un matin, pam, plus rien. Et ça, c'est un état dépressif, c'est pas une dépression en soi. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les symptômes, grossiers, mais c'est intéressant. Et on va reprendre sur cette rupture donc de l'éducation nationale, ce sas entre deux dans la campagne et puis cette reprise. Et maintenant, le après, parce que le après, Élise, on te connaît en pleine campagne maintenant. Donc, le travail sur toi que tu as fait germer en toi différentes choses, t'as vu la vie différemment, quelque part. T'as pris la décision de t'installer à la campagne, parce que maintenant, vous êtes installée avec ton conjoint.
Oui, on est installée, c'est sûr. Après, je me rends compte que, avec mon emploi actuel, que je suis peut-être pas complètement sortie des ronces encore, parce que j'ai vraiment le sentiment de toujours pas avoir le bon rapport au travail. Enfin, j'ai beaucoup de mal à pas me surinvestir, à pas prendre ce qui se passe dans le milieu professionnel vraiment trop à cœur, à pas savoir couper sur les périodes de congé, par exemple. Et du coup, en fait, j'essaie d'être vigilante parce que cette nouvelle carrière que j'ai à nouveau. Dans le public, j'ai eu tendance l'année passée à prendre des postures qui m'ont renvoyé un peu en arrière, qui m'ont rappelé un petit peu cette première période dans l'éducation nationale où j'étais à 200% comme si ma vie dépendait de ce travail dans tous les sens du terme, et vraiment
le grand pas en avant qu'on peut observer, c'est que les personnes qui ont été diagnostiquées, ou en tout cas pré-diagnostiquées, ou en tout cas auxquelles on a ouvert l'esprit sur le syndrome d'épuisement, appelé plus communément burn-out, on est d'accord, fait que ces personnes l'ayant vécu, cette mise au sol, cette sortie du déni, il faut arrêter de se mentir, on est épuisé, point barre, hein, d'accord. Et puis, ces personnes, je ne dirais pas qu'elles ne rechutent pas, je ne dirais pas que c'est des rechutes, je dirais simplement qu'elles acquièrent une conscience supplémentaire qui fait qu'ensuite leur chemin s'en trouve différent. Et je m'explique. Donc, au départ, on est épuisé parce qu'on a cette espèce d'addiction adrénaline, cortisol, et comme tout addict au mouvement, à surinvestir, à puncher, à euphoriser, à machin, tout addict, une fois qu'il est sorti du déni et a accepté de dire qu'il était épuisé, est à moitié guéri. L'addiction à l'alcool, on dit que la personne qui dit « je suis alcoolique » est à moitié guérie. Et la personne à l'épuisement qui dit « je suis épuisée » est à moitié guérie. Pourquoi ? Parce qu'après, elle sait qu'elle doit être vigilante. Et tu as bien dit ce mot « vigilante ». Et ça, c'est à mon sens la thérapie la meilleure, c'est être vigilant. Parce qu'on n'est jamais d'abord sorti, puisque c'est une maladie de société. Une pathologie de société, on est dedans. On est comme la grenouille dans le bocal d'eau qui chauffe, j'entends. Qui est-ce qu'on se permet d'être pour croire qu'on ne va pas chauffer en même temps que tout le monde ? On chauffe. Donc voilà. Même les retraités, hein, en militant et autres, ils chauffent aussi. Tout le monde chauffe. Hop, hop, ça bouillonne. Donc je pense que la prise de conscience fait toute la différence.
Oui, oui. Non, mais c'est sûr. Il y a indéniablement ça. C'est que, effectivement, maintenant, bon, je suis obligée de me le répéter souvent et de le conscientiser, mais. J'ai cette démarche de me dire attention, c'est qu'un travail. Là, t'as fait. Je me dis bêtement, hein, t'as fait largement tes heures pour la semaine, c'est bon. On s'arrête, on fait autre chose parce que c'est que ton travail. Et chose que je me disais pas du tout quand j'étais enseignante.
C'est pour ça que je dis que, en fait, il faudrait presque, puisque c'est une pathologie de société, tout le monde est touché, sera touché ou a été touché, hein, d'accord, et que dans ce qu'on fait dans le cadre de l'association comme information, c'est déjà de pouvoir visualiser et de pouvoir faire des prêts, des avortements de burn-out, c'est déjà se guérir de ne pas y tomber, d'accord. Donc plus on préviendra, plus les gens seront, on va dire, mis à l'écoute de ce phénomène, plus on l'évitera. Parce que c'est une autre manière de fonctionner. C'est tout. Ça veut dire que quand on estime qu'on a fait trop, ben, on pose tout, puis on se dit, tiens, là, je vais me faire une balade qui ne sert à rien, mais je vais me faire 4 heures de balade qui ne sert à rien. D'accord ?
Ah oui.
Et faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la méthode sandwich, hein, c'est une méthode que j'ai créée. Je dis toujours, j'ai parlé à des jeunes de 16 ans là, ce week-end, vous ne mangeriez quand même pas du jambon pendant une semaine, et puis après du pain pendant une semaine, puis après de la moutarde pendant une semaine, puis du beurre pendant une semaine. Bon, eh bien, votre vie, faites la même chose. Ne faites pas des gloutonneries de boulot. Hein. Vous tripez un bon coup, d'accord, vous speedez, vous faites une tranche de boulot. Après, vous mettez dessus une tranche de jambon, c'est-à-dire une tranche de repos. Après, vous mettez dessus un peu de moutarde, un peu de vie sociale. Et puis, un peu de beurre, c'est simplement un peu de douceur dans votre vie, peut-être être bienveillance. Enfin bref, vous faites une méthode sandwich. Et je trouve que la méthode sandwich est bien plus digeste. Ben oui, parce que manger du jambon une semaine, du pain une semaine, de la moutarde une semaine et du beurre une semaine, voilà, l'estomac solide. Hein.
C'est ça.
Donc, je pense que la méthode sandwich est la méthode qui peut arriver à faire fonctionner l'être humain dans une société qui est déglinguée. Parce que, voilà. Donc, c'est clair que de toute façon, on en demande toujours plus. Les 4 points. Compétition. Il faut toujours courir plus vite, que vite, que vite, que vite. Être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Concurrence exacerbée. Noyer son voisin pour arriver à remonter la tête au bord de l'eau. En gros, hein. C'est de la concurrence de ouf. Le culte de l'urgence, hein. Faites-moi pour hier ce que je vous ai demandé pour demain, hein, en gros. Juste si on ne nous engueule pas parce que le truc, il était pour demain, il aurait fallu qu'il soit déjà fait hier. Bon, d'accord. Et puis la manie d'évaluation. Comment est la personne, hein, machin. Alors, pour adoucir l'atmosphère. Je dis toujours, ben, pour évaluer un drap qu'on a acheté, c'est sympathique. Est-ce que le coloris vous plaît? Est-ce qu'il est assez doux? Bon, pour un drap, ça va. Mais pour un être humain, est-ce qu'il vous a répondu comme ci? Est-ce qu'il vous a répondu comme ça? C'est un contrôle et une pression qu'on met sur l'humain qui est infernale. Et maintenant, on évalue tout. Et on s'auto-évalue aussi.
Oui, beaucoup.
Voilà.
C'est ça.
Oui, je la vois très songeuse, là, avec ce que vous dites, Élise.
Non, mais c'est, oui, c'est vrai.
Donc, le après, c'est une vie vigilante, je dirais.
Oui, oui, oui. Bah, parce que forcément, oui, j'ai pris conscience de... du mal que je m'étais fait. Alors, certes que je ne l'ai pas fait toute seule, parce qu'effectivement, c'est un système, mais que je voulais juste pas refaire la même, quoi, tout bêtement.
Oui.
Donc, voilà, vigilance et prendre du recul.
Et être bienveillant avec soi.
Oui, aussi. Ça, c'est aussi un bon objectif.
Voilà, être gentil. En tous les cas, ben, on te remercie beaucoup, Élise, de ce témoignage.
Avec plaisir.
Qui est un témoignage positif.
Oui, ah mais oui.
Et en même temps, je trouve exemplaire, si je peux me permettre. Parce que le courage d'abandonner l'éducation nationale... Non, mais sérieux.
Ouais,
ça a probablement été la chose la plus intelligente qu'on puisse faire pour échapper à quelque chose de plus grave. Voilà.
Oui. Ben, merci à vous.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Merci, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute. Et on vous dit à bientôt.